Africa, le grand débat avec Francis Laloupo.
Le processus de démocratisation en Afrique, 25 ans plus tard, nos invités, Yves Stéphane Ndélé, Ndongo Sambasila et le docteur Yves Péamaïso, qu'on va rejoindre dans quelques instants, après avoir écouté un auditeur qui a été très patient, M. Youssouf. M. Youssouf, bonsoir.
Monsieur Laloupo.
Nous vous écoutons, bienvenue.
Merci. Et en fait, moi, je voudrais demander, c'est quoi le contraire de la démocratie? Parce que si on considère que la démocratie n'est pas parfaite, est-ce qu'il faudrait qu'on jette la démocratie pour prendre la dictature?
C'est une vraie question.
Parce qu'au moins dans la démocratie, on sait que le peuple a le choix, le droit de choisir, même si c'est théoriquement.
Oui.
Contrairement dans la dictature, où le peuple n'a pas son mot à dire. Donc moi, automatiquement, je préfère la démocratie. Maintenant, si le mot démocratie ne convienne pas à certaines personnes, quel mot il faut trouver? Parce qu'on conçoit que le mot démocratie, c'est un truc occidental ou occidental. Maintenant, trouver un mot africain.
Mmh.
L'essentiel, c'est qu'on puisse joindre le geste aux paroles. Par exemple, on dit que la liberté, la démocratie, pour moi, c'est la liberté d'expression, de penser, d'aller, de venir. Ok? Au moins, si on trouve un autre mot, si ça permet réellement de pouvoir avoir la liberté de penser, de s'exprimer, de s'instruire, de faire tout ce qu'on a besoin, c'est pas vraiment le mot qui compte. Ou maintenant, c'est bien j'entends vos spécialistes qui nous parlent des histoires grecques, de quoi là. C'est tout ça, c'est bien. C'est très très bien de connaître l'histoire. Mais aujourd'hui, on a besoin des trucs réels, concrets sur le terrain.
Youssouf, merci beaucoup. Je pense que c'est Ndongo Sambasila qui va vous répondre. C'est une vraie question qu'il pose. Et je m'associe pleinement à cette question d'ailleurs. Hein, voilà. Et quel est le contraire de la démocratie? Alors, on peut peut-être l'appeler comme on veut, mais c'est quand même essentiellement l'aspiration légitime des populations à la liberté, à toutes les formes de liberté.
Tout à fait. C'est une question très, très intéressante. Mais d'abord le paradigme. Parce qu'en fonction du paradigme, on a des définitions différentes. Au départ, démocratie, on l'opposait à aristocratie et à monarchie.
Ou à dictature.
Oui, je vais revenir sur la dictature. Monarchie, le gouvernement d'un seul. Oligarchie, le gouvernement, disons, des riches, plutocratie. Et démocratie, c'est les citoyens ordinaires qui se gouvernent eux-mêmes. Donc, il n'y a pas plus d'égalité et de liberté pour les citoyens ordinaires que dans une démocratie. En principe, la démocratie, c'est fait pour les peuples. Mais, avec l'évolution qu'il y a eu, disons, à partir du 19e siècle, comme je le documente dans mon livre, le mot démocratie a été investi dans un autre sens. Un système oligarchique, démocratie représentative, régime représentatif, un régime fait pour permettre l'accumulation de capital par les plus riches. C'est vu investir du titre de démocratie. Donc, nous ne sommes pas en démocratie. Même aux États-Unis ou en France, nous ne sommes pas en démocratie.
Mais à l'aune des attentes des Africains aujourd'hui, par exemple, c'est la question que pose Youssouf. Hein.
Oui.
Je veux dire que comment voyez-vous, je dirais, cette démocratie agissante dans les pays africains?
Oui. C'est que Monsieur Youssouf, quelque part, il y a des pans de l'histoire, de la pensée qui lui échappent. Parce que, par exemple, le mot dictature, il vient de la Rome antique. Et dictature, ce n'est pas un régime politique. C'était une institution, comme par exemple le fait d'être sénateur ou le fait d'être député, qui était à laquelle on recourait en période de crise.
Déception.
Et cette dictature,
période d'exception.
Oui, durait juste 6 mois. Après, le dictateur, il passait le relais à la République.
Ça a changé depuis. Hein.
Oui, ça a changé depuis. Donc ce qu'on appelle dictature, le terme technique, c'est despotisme. Mais pour moi, il n'y a pas le régime souhaitable, c'est la démocratie. Mais actuellement, ce qui existe, c'est une oligarchie. Pour moi, le combat, c'est de sortir de l'oligarchie pour aller vers la démocratie qui pourra répondre aux aspirations du peuple. Mais tant qu'on ferme notre horizon en disant que si c'est pas ce système-là, et donc c'est la tyrannie, c'est le despotisme, nous n'avancerons pas très loin.
Mm-hmm.
Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en oligarchie, et que si nous voulons aller vers la démocratie, il faudra qu'on libère notre imaginaire, qu'on puisse construire d'autres systèmes politiques, d'autres institutions politiques, en faisant preuve d'audace, mais en ne pas essayer à chaque fois d'imiter ce que se fait ailleurs. Parce que les autres pays ont construit le système politique à partir de leurs besoins ponctuels.
Donc la démocratie reste un projet révolutionnaire.
Oui, tout à fait.
Yves Kouamaïso.
Bon, je ne sais pas.
Beaucoup de choses ont été dites. Hein. Alors, on va vous laisser le temps, évidemment, de réagir à tout cela, à tous les tiroirs que nous avons tirés.
D'accord. Donc, je ne suis pas convaincu que le pouvoir révolutionnaire comme idée. Et je reviens au point fondamental de vivre ensemble ou de vivre en harmonie. Les concepts sont quand même très importants. Nous n'avons pas un concept de démocratie en tant que tel, basé que sur des institutions, mais nous avons un objectif. L'objectif, c'est qu'on doit vivre ensemble, même malgré tout ce qui s'est passé au Rwanda, etc. Et c'est à partir de ce concept que tout ce qui va découler de démocratique doit se fondre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'est très importante, on rappelle quand même à celui qui dit qu'on ne travaille pas, qu'on est des fainéants, ou tout simplement qu'on n'est pas pratique, qui se renseigne un tout petit peu. Je suis aussi chef d'entreprise, on le dit jamais à cette radio, et je fais la délocalisation d'entreprise, notamment à partir de l'Europe ici. Je fais aussi ce qu'on appelle du contenu technologique qui vous permet non plus de faire du gari, mais d'en faire 10, 15, 30 fois plus. Pareil dans l'agriculture. Et donc, ce monsieur se renseigne avant de parler à la radio, sinon, il est en train de dévaloriser l'ensemble des Noirs, d'ailleurs, qui parlent sous cette forme. Troisième chose très importante, c'est la notion de démocratie. Si ce point doit être lié à l'économie, revenons à l'essentiel. Arrêtons de parler des concepts. Ce sont des acteurs, ce sont des individus qui font ça. Un individu, c'est un être humain. Mmh. Il peut être dans une logique d'éthique, en quoi faut-il le contrôler? Donc, on n'a pas dit, en tout cas, j'ai pas entendu, il faut rendre des comptes. Il faut fondamentalement rendre des comptes. Les Anglais appellent ça accountability. Quand est-ce qu'on rend des comptes? Si vous ne rendez pas des comptes et donc vous êtes pris, à un moment donné, à cause de ça, on ne peut pas fonctionner. Mmh. Revenons d'ailleurs à ça. C'est un grand, grand, grand progrès de pouvoir condamner un chef d'État tchadien au Sénégal. Un grand progrès. Même si ça a duré 25 ans, même s'il y a eu beaucoup de morts qui ne reviendront jamais, mais c'est un très grand progrès. Et malgré tout, l'Union africaine l'a quand même dit, parce que c'est elle qui a lancé cette chambre, etc. Donc c'est très important que les choses évoluent. Mmh. Maintenant, nous sommes dans un marathon démocratique. Mmh. C'est un marathon.
Un marathon démocratique.
Vous vous arrêtez. Ben oui, vous vous arrêtez, vous bougez un coup, vous allez dormir, vous repartez le lendemain. Parce que si vous voulez faire tout d'un coup, vous tombez raide.
C'est ça.
Donc, il faut arrêter de croire que tout va se faire vite. C'est un marathon démocratique. Mmh. C'est sur le mot.
On retient le terme, oui. Précieusement.
D'accord. Et c'est un objectif précis. On a souvent développé sur nos sites d'afrocentricité. Hein. Et là, un objectif précis. La liberté, oui. Mais la liberté se fait comment? Se fait si vous travaillez, vous avez un emploi, vous avez un pouvoir d'achat. On revient donc à l'économie. Mmh. Qui êtes-vous si vous êtes dépendant? Qui êtes-vous si vous êtes esclave? Qui êtes-vous si le patron fait ce qu'il veut de vous, etc. Vous devez bien trouver un moyen. Donc le problème de ces acteurs, c'est qu'ils sont en train d'embrigader cette démocratie pour mieux conserver, en fait, l'accaparement des richesses.
C'est ça
qu'il s'agit, en fait. Il faut qu'on trouve un moyen de les faire dégager. Mmh. Mais non, il faut le faire pacifiquement. Il n'y a personne qui est assassin autour de cette table. Donc, il s'agit de trouver un moyen intelligent et qui passe par la palabre africaine intelligente. Ce n'est plus la palabre africaine en longueur qui ne finit jamais, on ne sait même pas ce qu'on veut obtenir. Non, intelligente, c'est-à-dire qu'on arrive à faire comprendre l'ensemble d'une population que sa difficulté...
Parfois cette palabre devient un peu des petits arrangements entre amis, hein.
Non, on est d'accord, mais sur le principe, je reste au niveau des principes, on parle des principes.
Oui.
Les mots, les questions ont été posées sur des mots. Nous avons des mots. Nous avons des mots. C'est pas ce qu'on les a dévoyés. Regardez les mots qui Ubuntu qui sont en Afrique du Sud ou d'autres. Il y a plein de mots que nous avons, mais nous les mettons de côté pour prendre des mots qui viennent de l'Occident, créés par d'autres gens pour leur culture à eux. J'en vois pas un problème d'ailleurs. C'est universel cette notion de démocratie. Okay. Démocratie à l'africaine, non. Parce que chaque fois que c'est au mot africaine, c'est à la sauce africaine.
C'est ça.
Avec du piment, du gombo et tout ce que vous voulez. Hein. Les gens ne veulent plus en manger parce qu'on y met tout. Mais on a des proverbes que trop de viande ne gâte pas une sauce. En fait, c'est faux. Trop de viande gâte une sauce, justement.
Oui.
Donc, il faut arriver à comprendre que dans la différenciation, l'objectif, c'est de nous rendre libres. Cette liberté passe par l'emploi, pas par la création de l'emploi. Et cette création de l'emploi passe par l'entreprise.
Mmh.
Nous devons entreprendre. On ne peut plus continuer à philosopher, à parler. On doit entreprendre. Donc, la personne qui croit qu'on n'entreprend pas, qui se renseigne. Parce qu'il y a plein de gens africains dynamiques dans la diaspora ou ailleurs, qui sont très actifs. Maintenant, s'ils ont des blocages, s'ils ont des résistants, s'ils ont des blocages, quand vous créez une entreprise que l'État vient vous le piquer, on vous met une taxe, alors que vous n'avez même pas encore commencé à ouvrir votre entreprise, et la taxe est sur 2 ans, alors que vous n'avez pas encore commencé, vous voyez ce que ça veut dire. Tout ça fait partie de cet état de droit dont nous avons parlé. Donc, je conclue rapidement. Ce qui est important pour moi dans cette histoire, plutôt que de parler des concepts, revenons aux acteurs. Et les Africains, on a tendance à hésiter à fuir les acteurs. Mmh. Ce sont des acteurs qui sont responsables. Ce sont des acteurs qui sont coupables.
Mmh.
Et cette culpabilité, c'est les rendre des comptes. Il va falloir, au moment donné, qu'on trouve un moyen de les juger. C'est le vote, justement.
Mmh.
Et ce vote passe par quoi? La vérité des dieux. La vérité de ce qu'a dit le peuple. Cette vérité, elle est dévoyée. Elle est trafiquée. Elle est inversée. Elle n'existe même pas. C'est pas la peine de citer quelques pays. Tout le monde les connaît.
Mmh.
Donc, comment nous faisons pour que cette vérité des dieux redevienne ce que le peuple veut? Le peuple a le droit de se tromper tous les jours. Regardez les Suisses. Tous les jours, ils font des votations et quelques années après, ils reviennent sur leur décision.
Mmh.
Écoutez, la Suisse se porte très très bien. Vous voyez?
La vérité des jeunes qui est au centre des travaux d'Afrocentricity, bien sûr, Yves Kamaizo. Alors, puisque vous avez évoqué l'économie, donc, au Sambassila, je me tourne vers vous. Question, donc, à l'économiste et au penseur également. Hein. Économiste, évidemment, qui n'est pas un gros mot, hein, il faut le dire pour notre ami qui a appelé tout à l'heure. Vous êtes évidemment très utile à la société. Alors, vous avez déclaré récemment qu'il était nécessaire pour les années à venir que l'Afrique invente une alternative au système capitaliste parce que, selon vous, je vous cite, hein, la plupart des jeunes et les forces émergentes aspirant à réaliser l'unité africaine se positionnent dans une perspective clairement post- et anticapitaliste. Alors, ma question est celle-ci, quels sont les ressorts dont disposent aujourd'hui les forces vives dans les pays africains pour produire de nouveaux modèles économiques, voire sociaux ?
En fait, leur principale force, leur principale ressource, c'est l'imagination. Pourquoi je dis ça ? Parce que, généralement, même, en fait, lorsque j'ai fait cette déclaration, j'avais critiqué l'agenda 2063. Pourquoi? Parce que je trouvais que cet agenda reproduisait l'imaginaire colonial du 19e siècle.
Agenda 2063, initié par
l'Union africaine. Pourquoi je dis ça?
Pour l'émergence de l'Afrique.
Oui, c'est une critique un peu dure. Parce que, lorsque je dis que ça reproduit l'imaginaire colonial, parce que je voyais dans le texte, on disait que oui, l'Afrique est là, un continent qu'il faut exploiter. Ce ne sont plus les colons, mais c'est les Africains eux-mêmes. Alors que j'ai pas vu dans le texte les deux chocs les plus importants auxquels nous allons faire face dans ces 50 prochaines années. Le premier, c'est le choc démographique. Entre 1950 et 2050, la population africaine va être multipliée par 10. Ça ne s'est jamais vu à travers l'histoire. Et nulle passe de ce choc dans les documents. La deuxième chose, c'est que le progrès technologique économise de plus en plus le facteur humain dans la création de la valeur. Donc ça veut dire que tout le monde ne pourra pas travailler 35 heures ou à temps plein. Il faudra d'autres articulations. Mmh. Et on est dans un monde où c'est le principe, comme disaient les révolutionnaires au temps, de coexistence, de l'opulence et de la misère. C'est-à-dire que vous créez de la production, mais c'est juste pour la minorité. Donc si on est 3 milliards d'Africains en 2065, on a la technologie qui vous dit, oui, on peut produire plus efficacement avec moins d'hommes. Et on veut continuer dans le système capitaliste. Pour moi, c'est pas possible. Les trois choses ne sont pas possibles. Et cette réflexion prospective-là, elle est absente de l'agenda de l'Union africaine 2063. Et la plupart des économistes, ces variables élémentaires, ils ne les intègrent pas dans leur modèle. C'est pourquoi je dis que nous devons réfléchir à d'autres alternatives. Et ces alternatives-là, elles sont pas disponibles. C'est à nous, Africains, d'y penser sérieusement et de créer une société, de vivre ensemble. Il est facile de dire qu'il faut vivre ensemble. Nous vivons déjà ensemble. Mmh. Avec les contradictions de se vivre ensemble là. Mmh. La question c'est de dire comment devons-nous vivre ensemble face aux contraintes que nous avons, face aux impérialismes, face aux divisions internes, face à la démission des intellectuels, face aussi au comportement scandaleux de ceux qui dirigent. C'est ça la vraie question, mais pas dire vivre ensemble, parce que nous vivons ensemble. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, mais nous devons vivre ensemble pour le mieux, de manière démocratique, égalitaire.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, Ndongo Sambassila, La démocratie contre la République, l'autre histoire du gouvernement du peuple aux éditions L'Harmattan. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Yves Stéphane Mellé, on va devoir conclure. Est-ce qu'il faut résolument poursuivre, comme le disait Yves Kouamaïso, ce marathon démocratique sur le continent africain?
Mais il faut le poursuivre. Chaque marathon, heureusement, il y a des haltes avec les points où on peut se désaltérer ou faire pas un bilan, mais un point de situation qui est bien plus indiqué. Donc, ça veut dire à chaque fois faire un point de situation, savoir quelle cadence on doit adopter pour pouvoir finir le marathon. Bah, ça, c'est le plus important. C'est pas de dire de participer, finir le marathon dans les meilleures conditions. Et je pense l'agenda 2063 est un premier plan. C'est vrai qu'il y a la variable, l'incertitude sociale qui n'a pas été totalement prise en compte, mais je pense qu'il y a des ajustements qui sont faits entre-temps, notamment la Banque africaine de développement, la BAD, qui fait un travail assez conséquent depuis un certain nombre d'années pour intégrer notamment le fait que l'agriculture peut absorber un certain nombre de jeunes et que face à la certitude des progrès technologiques et l'incertitude sociale, qu'entre deux, on puisse rayer pour la population africaine, surtout pour les jeunes africains, non seulement de la diaspora, mais ceux qui sont aux alentours, des moyens pour pouvoir vivre déjà sur le continent. Donc je pense que le tir, dès le départ, était mal fait, ça peut être ajusté, il faut des contributions, comme il disait tout à l'heure, pour dire...
Le tir était mal fait.
Oui, dès le départ, il est ajusté, ça peut toujours s'ajuster, il n'est jamais trop tard pour ajuster, mais vraiment, il y a une construction d'ensemble pour en prendre en compte, j'allais dire, le désir et les besoins des millions d'Africains qui peuvent laisser sur le bord, j'allais dire, de l'émergence.
Et le fait d'inventer de nouveaux modèles économiques, de nouveaux modèles sociaux, est-ce que vous vous associez au propos de Ndongo Sambassila?
J'ai toujours...
Est-ce que le modèle capitaliste est une fatalité pour les pays africains?
Mais le modèle capitaliste n'est pas une fatalité, dans quelque sorte, parce qu'il y a toujours des... On parlait des libertés à l'intérêt...
Mais dans l'agenda 2063, il n'y a pas d'alternative. Hein. Voilà. Il n'y a pas d'alternative au modèle libéral.
C'est la voie capitaliste, oui.
C'est la voie libérale, j'allais dire, pas capitaliste. Maintenant, reste maintenant...
Ce n'est qu'une variante étymologique.
C'est pas une variante étymologique. Là, vraiment, on peut dire parce qu'on prend par exemple les pays du nord de l'Europe qui ont une approche capitaliste et pas libérale, et on voit ce que ça donne, un vivre ensemble qui est différent.
Le seul pays où on a observé...
On voit la Norvège, le Danemark.
L'inflexion du capitalisme, ça a été le Japon il y a quelques vieilles années, qui avait inventé le capitalisme social. Mais enfin, depuis, évidemment, les choses sont... le Japon a rejoint le peloton, la doxa libérale universelle.
Mais justement, hein. La question, c'est de ne pas rejoindre le peloton, de dire, ben, prends en compte...
Mais on y est déjà.
C'est le problème. Je sens qu'Yves Ekwameso doit bouillir là où il est, parce qu'évidemment, Yves Ekwameso, vous avez 2 minutes pour conclure de façon lapidaire, comme vous savez le faire.
Ok, c'est très simple. Il faut d'abord fondamentalement s'éloigner de l'approche du haut vers le bas. Je pense que ça a été dit et ça certainement fait le consensus entre le débat d'aujourd'hui. L'agenda 2023 de l'Union africaine,
2063,
on a déjà suffisamment, beaucoup d'efforts ont été faits, sauf que c'est très simple. Un, il n'y a pas d'argent, il faut me le dire clairement. 90% vient de l'Union européenne, donc je ne vois pas comment l'Union européenne va financer l'agenda des Africains. Donc encore, les acteurs africains sont incapables de financer leur propre activité parce que l'approche
est vers
le bas. Si on passait du bas vers le haut, ça serait peut-être mieux. Deux, c'est la notion d'imaginaire. Je partage, mais faites très attention. Lisez le livre de Aminata Traoré, le viol de l'imaginaire des Africains. C'est pas tout d'avoir des idées. On me voit tous les jours, on va faire une entreprise, j'ai pas d'argent. Mais écoutez, vous n'existez pas. Hein. J'ai un projet, j'ai pas d'argent. Vous n'existez pas. Donc il faut bien les banquiers pour vous faire quelques crédits. Et troisième élément, je reviens sur la notion, le vivre ensemble, c'est le mot qui est utilisé aujourd'hui. En réalité, historiquement, depuis la masse ancienne, en fait, c'est le vivre en harmonie, d'abord avec ceux qui sont en dehors des êtres humains, Dieu lui-même, mais en harmonie avec son voisin, plus proche, proximité, et beaucoup plus loin. Ce n'est pas évident, il y a des rapports de force. Donc, il faut nous organiser en association, en structure, en mouvement.
Les objectifs.
En fait, on va conclure. Ndongo Sambassila, quand on vous écoute les uns et les autres, en fait, bon, évidemment, le mot démocratie était au cœur de ce débat, et pour cause, hein, puisqu'il est au cœur de votre ouvrage, il est même, je dirais, le déclencheur de votre ouvrage. Finalement, la question, c'est de savoir quelle est la capacité des Africains, quel que soit là où ils se trouvent, évidemment. Je veux dire, vous avez beaucoup tous parlé de vivre ensemble. La question, c'est d'inventer, finalement, des nouvelles formes de vie, finalement. C'est ça.
C'est tout à fait ça. Tout à fait. Et pendant ce temps aussi, il faudra qu'on aménage un espace pour construire le futur que nous voulons. Je dis ça, pourquoi? Parce qu'actuellement, le principal obstacle à une démocratie authentiquement africaine, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le pouvoir des multinationales. Il y a des accords d'investissement, des traités commerciaux qui sont en train d'être, disons, conclus secrètement sur le dos des peuples. Et ça, ça va condamner notre avenir économique. Et pourtant, c'est des chefs d'État qui ont été légitimement élus, qui les signent en secret. Au Cameroun, par exemple, c'est durant la Coupe du Monde passée, vers minuit, les gens se sont réunis pour signer ça à la va-vite. Et c'est légitime parce que ces gens ont été élus. Donc, en moyenne, oui, on a besoin de rendre compte. Les sécurités doivent rendre compte, mais aussi ceux qui les principaux acteurs de l'économie doivent aussi rendre compte. Donc, on a besoin d'une forme de constitutionnalisme que j'appellerais économique. Il faut passer à un autre stade. C'est en essayant de lutter contre ces phénomènes-là d'accaparement du pouvoir politique par les multinationales, entre autres, qu'on parviendra à nous frayer le chemin vers la libération.
À nous frayer le chemin, à créer le cadre idoine, c'est ça. Hein, c'est, voilà. Parce qu'au-delà des questions économiques, il y a aussi le comportement. C'est d'abord aussi un comportement. Hein. Quand on parle de démocratie, ce sont des valeurs comme la tolérance aussi.
Oui, hein. La culture de l'égalité.
Oui. La culture de l'égalité.
L'égalité.
Merci beaucoup d'être venu.
Multinational, oui, mais il faut toujours mettre un visage, j'allais dire.
Stéphane Mbélé qui veut avoir le dernier mot.
Non, je ne veux pas avoir le dernier mot.
Non, vous avez raison.
Oui, c'est juste pour dire, écoute, multinational, qu'est-ce que ça veut dire au fait? Ça ne veut rien dire.
Alors, on fera un débat sur les multinationales si vous voulez bien, parce qu'elles existent bien.
Elles ont des nationalités identifiables, tout ceci. Donc, je pense qu'il faut nommer les choses telles que ça.
Je rappelle le titre de cet ouvrage de Ndongo Sambassila qui a été au cœur de ce grand débat, la démocratie contre la République, l'autre histoire du gouvernement du peuple aux éditions Lamartine, qu'il faut lire absolument, un livre, j'allais dire, nécessaire. Hein. Ndongo Sambassila, merci d'être venu.
Merci beaucoup.
Et bon retour à Dakar.
Merci.
Livre Stéphane Bellet, merci d'être venu. Analyste financier responsable gestion assurance risque. Et merci au docteur Yves Kouyamaïso, économiste, président du think tank Afrocentricity. Merci à toute l'équipe du Grand Débat. Dans quelques instants, rendez-vous avec le JDA, la rediffusion, avec Stéphanie Hartmann. Merci à Hélène Bizio qui a réalisé cette émission. À demain, portez-vous bien.